Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au Désordre Mondial, je suis votre arbitre, Rachel Marsden. L'épisode aujourd'hui est en anglais. Il est spécial parce que nous avons deux invités exceptionnels, deux lanceurs d'alerte presque aussi bien connus qu'Edward Snowden. Aujourd'hui, les lanceurs d'alerte de la NSA qui ont inspiré les divulgations publiques d'Edward Snowden sont avec nous exclusivement ici sur Spoutnik International. Des fuites sont partout cette semaine. WikiLeaks vient de fêter son 10e anniversaire. Le film d'Oliver Stone basé sur les aventures d'Edward Snowden est au ciné. Et le mystérieux Guccifer 2.0 vient de publier des documents qu'il décrit comme provenant de l'intérieur de la Fondation Clinton. Tout cela dans la dernière ligne droite de la course présidentielle pour Hillary Clinton. Est-ce que c'est le nouveau normal? Et est-ce qu'il devrait l'être? Les services de renseignement, si elles fonctionnent correctement, peuvent jouer un rôle essentiel, vital dans les démocraties. Eric van der Sipt, porte-parole du bureau du procureur fédéral belge, a récemment admis au journal belge Le Soir que l'organisation a sollicité de l'aide d'analyse de données du Federal Bureau of Investigation ou le FBI afin de localiser Salah Abdeslam, un ressortissant français né en Belgique impliqué dans les attentats terroristes à Paris en novembre dernier. Abdeslam a été capturé en mars, quelques heures après les funérailles de son frère, collaborateur terroriste, Brahim Abdeslam, qui a fait exploser une bombe suicide dans un café de Paris. Le procureur belge n'a pas confirmé l'utilisation des données de renseignement électronique de la NSA, mais il est difficile d'imaginer pourquoi le FBI serait utile à l'autre bout du monde, sinon pour taper la NSA sur l'épaule et demander ses services pour fournir des renseignements électroniques étrangers. Qui se plaindrait? Quelqu'un en Belgique ou ici en France, où je suis assis en ce moment, se leverait-il vraiment pour défendre les droits civils d'un terroriste islamique radical contre l'intrusion du Big Brother américain? Pas probable. Personne ne se soucierait des câbles diplomatiques liés aux guerres si les interventions militaires auraient été largement considérées comme un succès. Mais nous avons vu l'Irak et la Libye se transformer en nids de terroristes formés par la CIA et nous avons vu des accords commerciaux qui vendent des emplois des citoyens américains à l'étranger. Les gens finissent par penser « je ne vois rien d'utile qui se passe ici, alors peut-être que ces gars de la NSA passent vraiment tout leur temps au boulot à lire mon mail ». Les câbles WikiLeaks décrivant des traitements de Botox de l'ancien dirigeant libyen Muammar Gaddafi ou bien la relation entre le président russe Vladimir Poutine et l'ancien premier ministre italien Sergio Berlusconi sont des cousins. Ils sont semblables aux mails internes de la direction du Parti démocrate qui ont montré les organisateurs du parti qui conspiraient contre Bernie Sanders lors des primaires à la bénéfice de Hillary Clinton. Tout laisse l'impression que les élites de l'establishment passent leur temps sur des questions mineures plutôt que de travailler à résoudre des problèmes réels. Les fuites signifient une défaillance du système immunitaire. Jusqu'à ce que ce genre d'ineptie et de manipulation soit purgé au sein du gouvernement, il y aura sans doute plus de fuites, si seulement parce que l'optique favorise ceux qui sont responsables des fuites et non pas ceux qu'ils exposent quand leurs activités secrètes sont considérées louches. C'est une guerre de l'information. Comme dans toute guerre, il va y avoir des dommages collatéraux. Les informateurs qui prennent de grands risques pour collaborer avec le gouvernement des États-Unis ont été exposés dans les documents divulgués. Et ce qui signifie qu'il y en aura moins qui seront disposés à coopérer ultérieurement. Les fuites devraient-ils devenir le nouveau normal? Je dirais absolument pas. À long terme, les fuites sont préjudiciables parce que les démocraties, en vertu d'être plus ouvertes, ont une inhérente désavantage dans la guerre de l'information. L'avantage ira à ceux qui sont les meilleurs gardiens de leurs secrets. Dans une démocratie fonctionnelle, ceux qui versent des données qui exposent les gouvernements compromettent également les citoyens vis-à-vis des ennemis qui peuvent utiliser ces données. Mais le mot clé ici est bien fonctionnel. quand une démocratie est dysfonctionnelle et il y a un fossé entre le gouvernement et le peuple, une certaine exposition à la lumière à des fins de désinfection est justifiée. En 2002, William Binney et Kirk Weeb, cryptanalystes seniors de la NSA, ont demandé à l'inspecteur général du département de la défense des États-Unis d'enquêter sur la NSA et un programme appelé Trailblazer, destiné à analyser la collecte massive de données de communication. Benny a également servi en tant que conseiller technique pour le nouveau film d'Oliver Stone à propos de Edward Snowden, et est souvent cité par Snowden comme une source d'inspiration pour sa décision de rendre publiques ses révélations. William Binney et Kirk Weeb, bienvenue à l'émission. Il est formidable de vous avoir avec nous. Alors William Binney, je vais vous parler en premier. Vous avez été le conseiller technique d'Oliver Stone pour son nouveau film intitulé Snowden. C'est Stone qui a eu l'idée que le personnage de Nicolas Cage soit fondé sur vous. Dans quelle mesure et par qui avez-vous pu voir le programme que vous avez créé abusé et quelle était votre relation avec Edward Snowden?
Bien, tout d'abord, je n'ai jamais rencontré Edward Snowden en personne. Et je n'ai jamais interagi avec lui. Je connais ses parents. J'étais à Washington lorsqu'ils y étaient pour recevoir une médaille pour Edward. Alors, en ce qui concerne le film, c'est moi essentiellement qui ai conçu les programmes qu'ils utilisent actuellement pour surveiller le monde. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé la sécurité que j'avais mis en place dans le programme, comme le chiffrement d'attributs, jusqu'à que tu puisses prouver qu'une cause probable est ainsi visée des personnes, et également les filtrages dès le début, que nous n'avions pas inclus des données dénuées de sens, alors que nous n'avions pas toute l'information dans nos bases de données. Alors nous respections presque la vie privée des personnes dans le monde, et nous avions un programme d'audit qui nous permettait de constater qui est entré dans le système, de voir ce qu'ils ont fait et s'ils ont violé des lois ou abusé des données en quelque sorte. Ça, ce sont les choses qu'ils ont enlevées, le même processus de filtrage. Oui et oui, mais aussi le président Bush, Dick Cheney, c'était vraiment sous l'autorité de Dick Cheney. C'est vraiment lui qui orchestrait tout, et Hayden, et Tenet, le directeur de la CIA qui faisait partie de ce groupe de 4 personnes, qui a décidé de violer les droits de la vie privée des citoyens américains tout d'abord, puis de tout le monde à travers la planète.
L'ancien directeur de la NSA et de la CIA, sous lequel vous avez servi à la NSA, Michael Hayden, est très critique de façon régulière du candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, disant qu'il représente un danger présent et réel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il parle au nom de l'establishment ou s'agit-il seulement de son opinion personnelle, à votre avis?
Alors, je suis certain que c'est l'establishment qui parle, car personne dans l'establishment ne veut Donald Trump. Il s'inquiète de ce qu'il fera. Il pourrait les faire partir à cause de toute l'activité illégale anticonstitutionnelle qu'ils ont pratiquée. Et lorsque l'affaire sera en justice, ils perdront toujours parce que c'est anticonstitutionnel. Le Congrès ne peut pas faire passer une loi qui viole la Constitution parce que ce n'est pas une loi. Alors toute l'immunité rétroactive sur les télécoms, toutes les choses qu'ils ont fait une fois que cela passera en justice et qu'ils seront confrontés constitutionnellement et ils perdront, toutes ces lois tomberont. Et c'est ce dont ils ont peur, vous voyez. Ils veulent protéger le monde qui a fait partie de la conspiration pour surveiller tout le monde.
Kirk Weeb, le film Snowden met en scène des données de citoyens américains qui sont collectionnées automatiquement, sans filtre, par une rafle massive, dont photos et mails. Pas seulement de la metadata et pas seulement par hasard comme une contrepartie pour un échange qui inclut à la fois un côté étranger et domestique. Dans quelle mesure est-ce que ceci est vrai et est-ce que c'est toujours pertinent?
Oui, Rachel. En fait, je ne sais pas si vous avez lu l'appel publié hier qui dévoilait le fait que Yahoo cherchait aveuglément des emails, pas de la metadata, mais le contenu actuel pour des mots-clés fournis par la NSA, incluant des millions et des millions d'usagers de Yahoo. Ce n'est pas une autre longue ligne de faits et de discussions qui ont été publiées ces 5, 6, 7 dernières années qui indiquent que le gouvernement collectait des emails sans discernement était en fait vrai. Et maintenant, il est prouvé que c'est le cas.
Il y a beaucoup de plaintes concernant des abus potentiels des données collectées de la NSA. Mais y a-t-il des cas où quelqu'un a prouvé en toute légitimité qu'il en avait été victime.
Non, même s'il y en a, il y a un cas particulier qui est passé par le système dont on serait au courant. Mais c'est très difficile parce que le gouvernement soulève souvent la question en justice, que c'est un secret national, que le préjudice qui pourrait déboucher de telles choses serait irréparable au gouvernement. Alors souvent, la justice a accepté le fait. Mais avec NSA versus Jewel, cela fait penser que le problème pourrait connaître sa fin devant la justice. Et donc, nous devrons voir ce qui se passe avec ça. Maintenant, une chose à ajouter à cela. Dans le cas Amnesty International versus Clapper, il mettait en doute la constitutionnalité de la NSA pratiquant cette collecte de données, et il est allé devant la Cour suprême. Et à la Cour suprême, et dans le débat où ce processus-là, que le procureur général des États-Unis a menti à la Cour suprême quand il leur a dit qu'aucune donnée de la NSA ne serait jamais utilisée contre une personne en justice, sauf si cette personne était informée que la NSA était la source, parce que cela touche au droit constitutionnel de l'accusé dans une affaire criminelle, de contester la découverte de l'information contre lui. Alors que son cas devant la justice est avéré par la suite être un mensonge. En fait, la sénatrice Feinstein se vantait sur le programme en 2013, essayant de défendre au Sénat, déclarant qu'ils ont mis des centaines de personnes en prison en utilisant ce programme chaque année. Je veux dire, ce sont des gens qui ont souffert. Ça a été fait en secret. Et ils sont en train de corrompre la procédure judiciaire en intégralité. Alors j'appelle ça, je continue à appeler ça, une politique planifiée de programme de parjure menée par le département de la justice des États-Unis, ce que j'appelle maintenant le département de Juste Nous.
En contrepartie de toutes les critiques suite à la collecte de données de la NSA, le FBI a été récemment approché par le bureau du procureur fédéral belge dans l'effort de collectionner les données d'un citoyen français né en Belgique impliqué dans le carnage terroriste en novembre dernier à Paris. On pourrait s'imaginer que le FBI ait été contacté pour obtenir des données de la NSA utiles pour sa capture. Quel est le problème avec cette affaire?
Non, tout a été fait par la NSA. Si vous regardez même les mandats qui ont été émis par la Cour FISA, des mandats généraux qui également sont anticonstitutionnels. La NSA s'occupe de la manipulation des données. Elle les compile et les stocke. Là, dans ce cas, tout ce qu'ils cherchaient, c'était toutes les données dans un programme appelé Treasure Map. C'est un programme de la NSA. Si vos proches, si vos auditeurs souhaitent rechercher sur Google NSA espace Treasure Map, en un mot, ils auront la présentation tout entière de ce programme. L'objectif entier de ça, c'est de surveiller où se trouve tout le monde et chaque système dans le réseau mondial à chaque minute de chaque jour. Et alors, quand ils sont venus avec la requête du FBI, le FBI est allé dans la base de données de la NSA et a pris cette donnée et leur a envoyé.
À la Conférence internationale de la sécurité de l'information de Black Hat à Las Vegas en 2014, j'ai demandé à l'ancien directeur adjoint de la NSA, Chris Inglis, des précisions sur votre système, Bill Binney. J'ai demandé, et je cite, « Est-ce que la technologie peut être utilisée pour réaliser des programmes de surveillance de masse plus respectueux de la vie privée ?» L'ancien cryptographe de la NSA, William Binney, déclare qu'il a contribué à construire un système avec de tels garde-fous, mais cela a été rejeté par les dirigeants de l'agence. Sa réponse était, et je cite, « Cela serait irresponsable de la part de la NSA de rejeter la technologie qui pourrait enfin nous aider pour la sécurité nationale et respecter la vie privée et les libertés civiques. » Je sais que ça n'a pas été finalement satisfaisant. Il y a des collectes accidentelles, comme il y a deux côtés pour chaque communication dans le monde, mais on est obligé par la loi et le règlement de traiter les innocents comme des innocents jusqu'à ce que des informations soient collectionnées pour les traiter autrement. J'aimerais vous donner l'opportunité de répondre à cette déclaration. Que veut-il dire par « ça n'a pas été satisfaisant » et pourquoi les gens devraient être concernés par les personnes liées par la loi et le règlement qui ont accès?
Alors tout d'abord, ce qu'il dit est totalement malhonnête depuis qu'ils ont pris ce programme. Cette idée du logiciel ou un logiciel spécifique, ils sont en train de l'utiliser actuellement dans leur programme mondial d'espionnage. Ça a été construit dans les programmes à la NSA. Et d'ailleurs, plusieurs de ces données ont été publiées par Edward Snowden. Alors tous ces logiciels sont juste là. Et ils l'utilisent pour espionner le monde entier, sans filtrer ou en ciblant comme nous le faisions. Alors oui, il s'est catalogué lui-même quand il a dit qu'il serait fou de faire ça, et je dis que c'est un qualificatif qui lui va très bien.
Ça a changé, mais seulement en périphérie, Rachel. Pour tous ceux qui sont au pouvoir, à la tête du gouvernement, principalement la branche exécutive de notre gouvernement, autorisée par les deux comités de renseignement du Congrès, celui du Sénat et celui de la Chambre des représentants, qui sont un collage complet d'organisations qui travaillent à l'instigation des dirigeants et du gouvernement au détriment de la population. Ce que je veux dire, c'est que les gouvernements qui ont traditionnellement tout collecté sur tout le monde ont seulement fait ça pour une raison, le contrôle des populations. Cette question met le peuple des États-Unis, et d'ailleurs du monde entier, dans la position d'avoir la mauvaise personne qui soit responsable de l'appareil et qui en fait un mauvais usage contre nous tous. On ne devrait pas se retrouver dans cette position. Mais apparemment, sur cette question, un groupe très restreint travaille, qu'il est très difficile de pénétrer. Si les personnes ne changent pas, rien ne changera.
Si le gouvernement américain octroie des exceptions en l'absence d'une procédure de membres de la communauté des services secrets comme Snowden, qui viole des lois de confidentialité qui protègent les informations privées du public en leurs mains, est-ce que cela ne sert pas plutôt pour affaiblir la vie privée du public ?
Je dirais, mais est-ce que la question m'est destinée ? Enfin, si c'est pas beau, ça, allons-y, formidable. Je veux dire qu'au sein de la NSA, ils avaient un programme Love Intelligence, ou Love Int, et grâce à ce programme, les analystes de la NSA avaient accès aux données, au contenu et aux métadonnées de communication de tout le monde aux États-Unis. Ils regardaient si leur bien-aimé les trompait. Ils ont fait ça sans que personne ne le sache, car il n'y avait aucun programme de surveillance interne. De leur travail, de leur base de données et de leur emploi de temps, du temps au sein de la NSA. C'était une des choses que nous avions incluses dans notre programme Thin Thread. Ils l'ont également enlevé. En gros, ils ont dénaturé notre programme. Je pense qu'ils ont senti une occasion à saisir. Donc, pendant les quelques mois qu'il reste à cette administration, le spécialiste du droit constitutionnel, et il sait parfaitement que ce qu'il faisait était tout à fait inconstitutionnel. Je veux dire qu'il parle de Barack Obama, oui. Obama est spécialiste du droit constitutionnel. Et donc, vous savez qu'il sait ou devrait savoir que tout ce qu'il faisait était inconstitutionnel. Après tout, c'est de cette manière qu'a été menée cette affaire auprès de la Cour d'appel fédérale qui a été établie par l'arrêté présidentiel 1233 et qu'il a d'ailleurs signé. Il devrait savoir que tout ça est inconstitutionnel. Je veux dire que c'est clair et net. Ce n'est pas difficile à comprendre. Et donc, je pense qu'ils ont senti qu'il y avait une occasion à saisir au moment où il arrive au terme de son mandat et où il pouvait décider d'agir correctement. Sinon, il impliquera tout le monde. Toutes les personnes de l'administration Bush et de sa propre administration sont impliquées dans cette grâce. Vous savez, l'immunité contre les poursuites judiciaires.
Kirk Weeb, je voulais vous demander, on entend parler quasiment chaque semaine, sinon chaque jour, de l'attribution des fuites de données récentes, et elles sont presque toujours attribuées à la Russie sans preuve technique. On est censé d'accepter la conclusion du FBI, tout simplement. Le gouvernement serait-il capable de nous fournir les preuves techniques crédibles, s'il souhaitait ? Que vous ne croyez pas qu'il soit capable de confirmer cette information sur le plan technique ?
Oui, oui, ils peuvent les produire. En fait, je suis aussi sûr que Bill Clinton, qu'ils ont tous les mails de Hillary Clinton. Tous ceux qu'elle a effacés. Enfin, au moins, il y a 99% de chances qu'ils les aient tous. Donc, ils pourraient produire des preuves techniques pour toutes ces choses-là. Mais je ne crois pas une seconde que quiconque du FBI, à quelque poste que ce soit, ait affirmé ou confirmé que c'était les Russes qui étaient responsables de cette attaque. Il n'aurait donc pas d'éléments techniques pour appuyer ces allégations ? Non, je ne pense pas qu'il les ait. Pas du tout. Je veux dire que c'est une affirmation des démocrates et de l'industrie militaire qui veulent commencer une nouvelle guerre froide. C'est dans leur intérêt, car il y a des sommes vertigineuses d'argent qui seraient liées à une nouvelle guerre froide, tout comme c'était le cas pour la dernière, d'ailleurs.
La NSC a été accusée de mettre en avant des mauvaises normes de chiffrement à l'industrie, comme par exemple la mauvaise norme de chiffrement Dual-EC DRBG, alors qu'elle fournit des portes dérobées pour la NSC en accédant à les logiciels afin de rassembler des données. Cela ouvre aussi ces failles à des acteurs malveillants, des criminels et à d'autres États-nations. Récemment, dans une discussion à l'antenne avec Jack Devine, l'ancien directeur des opérations de la CIA, il a déclaré qu'il croyait que de telles portes dérobées avaient été supprimées depuis les révélations de Snowden et le fiasco qui a suivi. Est-ce que vous direz que c'est vrai?
Je pense que c'est tout simplement un mensonge. Je veux dire que tout est devenu évident assez récemment quand quelques programmes que la NSA utilisait à partir du bureau des opérations d'accès, sur mesure le Tailored Access Office, ont été compromis. Mais je pense qu'ils ont toute une liste de procédures d'attaque émanant du bureau des opérations d'accès sur mesure. Des programmes qui peuvent compter les firewalls, les switches, les serveurs, les réseaux. Donc il y a toutes sortes, sans compter Bull Run, un programme de décryptage une fois qu'ils ont pénétré là où ils le souhaitent. Mais tout cela existait pendant tout ce temps. Je veux dire par là qu'ils savaient qu'il y avait des faiblesses dans les réseaux mondiaux et ils n'ont prévenu personne et n'ont rien réparé. C'est parce qu'ils voulaient garder la fenêtre ouverte pour pouvoir y observer ce que tout le monde faisait. Bon, c'est très bien tout ça, mais ça laisse tout le monde vulnérable et à découvert. Et c'est pour ça que nous avons tous ces piratages de société alors que l'on pensait que tout avait été réparé. Et malgré le fait que la NSA était au courant.
Comment les armes de la cyberguerre que nous connaissons aujourd'hui ont commencé?
Non, vous savez, ça a évolué très lentement. Bill et moi avons souri ironiquement à propos des appels d'offres pour des milliards de dollars au nom de la cyberguerre, parce que la cyberguerre n'est pas du tout si différente des renseignements, de la collecte classique de renseignements, de son processus et de ses analyses. La cyberguerre et la sécurité informatique ont 80% de points communs. Et tous ces problèmes, qui ont un rapport avec le transport et l'identification des usagers et des données, rencontrés sur les lignes informatiques ces jours-ci. Alors, nous pensons que c'est encore une énorme occasion de faire de l'argent pour ces sous-traitants. Ceux aux gouvernements qui sont en connivence avec les sous-traitants ont exploité ce problème pour au moins une décennie. Ce n'était certainement pas nouveau lorsque Bill et moi nous nous sommes mis à la retraite. Le boulot était connu. Mais si vous écoutez les têtes parlantes du gouvernement, elles déclarent « La menace n'a jamais été pire, nous avons besoin d'argent ». Et les revendications pour avoir plus d'argent continuent sans répit. Alors, on peut le résoudre. C'est juste la façon dont c'est conduit. Il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer, Rachel.
C'est le 10e anniversaire de WikiLeaks cette semaine. Son fondateur, Julian Assange, a donné une conférence de presse. Comment compareriez-vous la situation de Snowden vis-à-vis du gouvernement américain et celle de Julian Assange?
Eh bien, je pense que c'est probablement assez similaire. Enfin, après tout, je veux dire, Hillary Clinton était à un certain moment au point de penser ou demander que Julian Assange soit descendu par un drone. Vous savez, utiliser un drone pour l'avoir.
D'ailleurs, elle l'a nié hier. Que pensez-vous de cela?
C'est certain qu'elle allait le faire. Vous ne trouvez pas qu'elle nie beaucoup? Et après, les fact-checkers ont trouvé qu'en fait, elle avait fait ces choses-là, donc vous savez qu'on est nourri seulement de mensonges. Pas seulement de tous nos représentants et les gens au gouvernement, mais aussi leurs mensonges entre eux. Il faut noter que les dirigeants de l'agency et la DNI mentent au Congrès. Le Congrès et les comités mentent au reste du Congrès. C'est pourquoi les représentants Amos et Conyers avaient une coalition de démocrates et de républicains qui voulaient arrêter de subventionner les activités de la NSA, puisqu'ils ont réalisé de fait qu'on mentait à ses propres membres, aussi bien qu'à l'agency et à l'administration. La chose tout entière est construite sur un tissu de mensonges dans les deux sens. C'est vraiment un gouvernement corrompu.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.